Nous avons annoncé dans notre précédent entretien qu'il nous faudrait approfondir le lien entre moment que nous consacrons à l'oraison proprement dite et une vie qui soit tout entière une vie d'oraison, une vie en présence de Dieu. De telle sorte que l'oraison ne soit pas tant un exercice mental qu'un exercice vital. Et pour traiter cette question, il nous faut dans ce quatrième entretien commencer par une petite parenthèse. Comment savoir si nous devons consacrer un quart d'heure, une demi-heure, une heure ou plus chaque jour à l'exercice proprement dit d'oraison? Alors cette question est très moderne, et pour tout dire, je crois que c'est un peu une fausse question. Pourquoi? Parce que le temps ne se mesure pas. Et historiquement, tant que l'on vivait sans horloge, c'est-à-dire en gros jusqu'au XVe siècle, on n'a jamais pensé à mesurer le temps de prière. Vous n'en trouveriez pas la trace chez les auteurs du Moyen-Âge, par exemple, alors que les horloges étaient déjà inventées. Mais on ne mesurait pas le temps, parce qu'on vivait dans l'éternité. Le temps ne pouvait ni le vendre ni l'acheter. C'est par exemple comme ça que on ne payait pas les gens à la durée du travail. Parce qu'il y avait une sorte de sacrilège à vendre le temps. Et je dirais que cette mentalité profondément évangélique était celle du premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et dès lors, j'ajouterai, de tout ton temps. Et quand vous voyez une cathédrale, vous voyez bien qu'elle a été construite sans s'inquiéter du temps que cela prendrait. Toujours est-il qu'à partir du moment où l'on installe un peu partout des horloges en Occident, en gros, c'est la Renaissance et c'est le bouleversement de la mentalité occidentale, eh bien, dans la prière, on se met à distinguer entre des moments qui lui sont consacrés et le reste de la vie. Entre des moments chrétiens, j'allais dire, et des moments païens. Alors, on pourrait disserter longuement sur ce bouleversement, mais le risque pour nous est dès lors de faire deux parts dans notre vie. La part de Dieu, le dimanche matin, et puis le reste de l'existence, tristement laïque et obligatoire. Et c'est le début du divorce entre action et prière, entre Marthe et Marie, entre prière et vie tout simplement. Bon, quoi qu'il en soit, puisque nous n'échappons plus à cette question du temps qu'il va nous falloir consacrer à l'oraison, indiquons simplement quelques principes. Simplement quelques principes parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. Le bon sens nous dit bien qu'une mère de famille et une carmélite, un directeur d'entreprise et un moine ne vont pas la résoudre de la même façon alors qu'ils sont tous appelés à une égale sainteté. La question n'est donc pas là. Mais disons tout de suite que nous aurons trouvé la durée juste de notre oraison quotidienne quand toute la journée sera dans cette évidence d'être en présence de Dieu qui présidait idéalement au moins à la mentalité médiévale, mais qui indique le véritable équilibre chrétien. Alors, dire plus serait imprudent, mais sachons notamment que les pasteurs dans l'Église peuvent nous aider à bien régler notre vie d'oraison. Nous en parlerons dans un autre entretien, mais ils sont là pour nous aider dans l'ensemble de notre vie chrétienne et dans la vie d'oraison en particulier. Quelques principes quand même. Quel que soit notre devoir d'État, qui est la première et la plus certaine expression de la volonté de Dieu, il faut une vraie rupture entre, je dirais, occupation séculière et mondaine, et puis prière. Dire « j'y consacrerai 5 minutes quand j'aurai le temps » n'est pas une rupture. Alors très vite, l'objection va naître « mais avec tout ce que j'ai à faire, je suis un monsieur très important, etc., je n'ai pas le temps, bon. » Vous savez bien que vous avez le temps de regarder la télévision. Peut-être de lire le journal et de temps d'occupation moins nécessaire. Et peut-être cette question du temps à consacrer à l'oraison vous indique-t-elle que la première chose à faire, nous l'avons déjà mentionné, c'est une véritable conversion au premier commandement, c'est-à-dire à l'amour prioritaire de Dieu dans notre vie. Rupture donc dans notre occupation, mais aussi rupture dans les lieux que nous occupons. On prie mal là où, je dirais, on a le reste de ses activités. Alors le lieu favorable peut être une chapelle, peut être un coin prière chez nous, peut être tout simplement dans la nature. Et cela indique aussi une troisième chose, que il n'est écrit nulle part que bien prier suppose d'être à genoux sur le carrelage peu confortable d'une église. Dans la nature, par exemple, marcher calmement peut nous mettre notre corps en harmonie avec notre prière beaucoup mieux que telle ou telle attitude figée et crispée parce que nous aurons vu la statue des saints dans cette position. Je veux dire simplement, la prière, il est dans sa nature de nous détendre. On ne prie pas pour se détendre, mais il y a une harmonie du corps liée à l'harmonie de l'âme, et là aussi, à chacun de trouver le lieu, le temps et la position qui l'aideront. Bon. Et tout cela pour faciliter ce que saint François de Sales nous a appris à faire, et notamment la méditation par laquelle habituellement commence notre vie de prière. Alors cette méditation, elle n'a de sens qu'au service de l'éveil de l'amour de Dieu en notre cœur. Certains ont besoin de beaucoup penser, beaucoup méditer, beaucoup réfléchir pour cela. D'autres très peu, d'autres pas du tout. Et je voudrais simplement ici lire un petit texte de saint François de Sales qui va nous dire que nous ne devons en aucun cas appliquer les méthodes des autres, mais nous devons trouver la nôtre, et notamment, dès que l'amour de Dieu s'éveille en notre cœur, le laisser prendre le relais de la méditation. Et cela varie trop pour qu'on puisse donner une règle générale. Vous voyez, c'est comme pour faire prendre un feu. Parfois, il faut donner beaucoup de coups de soufflet. Voilà la méditation. Parfois, ça prend tout seul. Eh bien, nous verrons un peu plus loin qu'il s'agit dès lors de la contemplation. Mais en attendant, je lis François de Sales qui va nous préciser cela. « Il vous arrivera quelquefois que tout de suite après le début de votre méditation, votre affection, votre amour de Dieu, se trouvera toute émue. Alors, il lui faut lâcher la bride, sans vouloir suivre la méthode que je vous ai donnée. Car bien que pour l'ordinaire, la considération, la pensée doit précéder les affections et les résolutions, si le Saint-Esprit vous donne d'abord les affections, ne cherchez pas la pensée et la considération, parce que celle-ci n'est que pour émouvoir l'affection. Bref, toujours quand les affections se présenteront à vous, il les faut recevoir et leur faire place, qu'elles arrivent avant ou après toutes les considérations. » Voilà. Alors François de Sales nous redit que tout l'aspect activité mentale dans l'oraison est au service de cette unification profonde de la vie chrétienne autour de l'amour de Dieu, de l'amour concret de Dieu. Et cela nous prépare à notre prochain entretien où nous verrons, cette fois-ci, le lien entre oraison et tout simplement vie chrétienne.